France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Momo Kodama. Je suis née le 6 mars 1972 à Osaka, Japon, et je suis pianiste.
Il y a beaucoup de femmes qui jalonnent votre parcours, Momo Kodama, et je pense à quelques-unes qui vont sans doute faire partie de ces guides que vous allez trouver vous-même, toute seule, de façon indépendante, pour continuer à creuser ce sillon, parce que quand on a 16 ans et qu'on est avec des études derrière soi, c'est difficile. Il y a ce concours que vous passez et que vous gagnez, l'ARD à Munich, vous avez 19 ans, 1991, c'est évidemment le début aussi d'une carrière, mais entre 16 et 19 ans, il y a cette période là, peut-être un peu flou, où vous allez pouvoir bénéficier de conseils de différents maîtres. Parmi ceux-là, par exemple, je crois Tatiana Nikolaeva, une pianiste et compositrice.
Oui, qu'on ne connaît pas assez.
Et qui est une interprète vraiment majeure. On pense à ses bacs, mais en fait, on pense à beaucoup de choses. Mmh. Qu'est-ce que vous avez retenu d'elle? Qu'est-ce que vous avez pu garder? C'était assez jeune, puisqu'elle est morte en 93, hein, Tatiana Nikolaeva.
Oui, aussi, c'était beaucoup, beaucoup trop jeune. En jouant du Shostakovich, d'ailleurs. Ça,
c'était un de ses grands amis.
Absolument, dont les Préludes et Fugues étaient écrites pour elle, et qu'elle avait créées. Mais elle était une dame que j'admire aussi, en tout, musicalement, personnellement. Elle n'était pas pédagogue au sens propre du terme, mais on apprenait tellement en la regardant jouer. Dès qu'elle jouait un son, ça pouvait être dans une chambre comme ici, ou ça pouvait être dans une salle de 2000 personnes. Le son avait tellement une expression de présence. Et elle parlait toujours de l'amour au premier, pas au premier regard, un coup de foudre au premier regard, mais amour au premier écoute, son. Ça veut dire le premier son, déjà, ça doit être le grand amour dès le début. Et elle me disait, pas sur chaque note, mais les détails qu'elle me disait, c'était les petites choses comme ça qui faisaient reconsidérer beaucoup de choses et à chercher soi-même. Elle donnait des clés comme ça. Mais c'est vrai que son répertoire était extrêmement vaste, donc elle jouait même du Tilleux, elle jouait même du Boulez. Enfin, elle avait cette soif aussi de musique. Donc, je me souviens, je suis allée la voir. Elle me faisait un thé dans sa chambre.
Où est-ce que ça se
passait? Ça se passait un peu partout. J'allais la voir où elle pouvait avoir du temps. Donc, je lui jouais. C'était très souvent la veille du concert ou le lendemain du concert. Elle m'écoutait, après elle me donnait des conseils, et puis après, on se faisait un thé, et puis elle me faisait écouter aussi des choses qu'elle avait entendues. Ça, c'était des moments, qui marquent, qui restent comme un exemple de vie, en tant que, pas juste femme, mais musicienne, femme de générosité aussi. Et la chose aussi qui m'avait beaucoup impressionnée, c'est comment elle s'adapte aux acoustiques. Elle était venue à la répétition de mes concerts. Et puis, c'était une grande salle. Et bien sûr, dans une grande salle, je me suis dit, il faut que je donne plus, que j'exagère plus, que je rajoute un peu les nuances. Parce que quand on est, on a 15 ans, on ne sait pas d'abord s'adapter à une acoustique. On le fait un tout petit peu par l'instinct et les oreilles. Mais elle me disait, par exemple, dans une grande salle, qu'au contraire, il fallait alléger les choses et mettre plus de contraste. Enfin, ça aussi, c'était quelque chose qu'elle pouvait me donner par son expérience, par son oreille, par sa bienveillance aussi, parce que je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vue très sévère, dire des choses, pas sévères, mais sans concession, mais jamais d'une façon hystérique ou jamais d'une façon pas constructive. Et je crois que ça, c'était une rencontre qui m'a beaucoup marquée, oui.
Qu'elle vous parlait du coup de foudre, de l'amour, du premier son. Mm-hmm. C'est toujours une question qu'on se pose pour les pianistes, parce que le pianiste rencontre des instruments différents à chaque fois. Donc, quelle est la part de soi? Quelle est la part du piano? Comment est-ce que le pianiste a son propre son?
Oui, ça c'est... toujours difficile, le question de piano. Et en même temps, si, bien sûr, il y a des personnes qui, très peu de pianistes qui voyagent avec leur piano. On a aussi une grande part de responsabilité. Enfin, en tout cas, pour moi, ça se passe comme ça. Si on n'est pas à l'aise avec l'instrument. Et ça aussi, par exemple, Tatiana Nikolova, elle pouvait jouer sur un piano médiocre. Ça sonnait toujours, avec beaucoup d'expression. Et quelquefois, elle enseignait, elle avait un piano qui était beaucoup moins bien que le mien et ça sonnait beaucoup mieux que mon piano. Donc, et je pense que bien sûr, si on a un piano qui nous correspond et que le piano nous inspire, c'est quelque chose qui est un grand bonheur, un grand luxe et que le piano joue quelquefois mieux que moi. Ça, c'est vraiment quelque chose, un bonheur total. Mais après, oui, c'est, à chaque fois, c'est une redécouverte, une réadaptation. Et c'est ça aussi que je trouve qui rend peut-être les choses intéressantes aussi.
Vous avez eu cette première expérience d'école plutôt française, on le disait, avec Tatiana Nikolaeva. Il y a aussi toute une école russe du piano. Alors, vous êtes à un moment de votre vie où la technique Momokodama est évidemment déjà installée, déjà inscrite. Donc, ce n'est pas d'apprendre véritablement le piano comme on apprendrait à ses débuts. C'est plutôt d'enrichir une pratique qui est déjà là. Quand vous rencontrez Vera Gornostayeva, c'était aussi la méthode russe, mais... C'est encore différent, je crois. On dit beaucoup que c'est quelqu'un qui s'inspirait d'images. Qu'est-ce que ça a enrichi là aussi, à son tour, dans votre palette?
Oui, alors elle, c'était vraiment une pédagogue qui était vraiment très investie dans la pédagogie. Elle était interprète aussi en même temps parce qu'elle disait que pour être bonne pédagogue, il faut savoir ce que c'est être sur scène régulièrement et de jouer soi-même, savoir dans quel état on est quand on joue et s'inspirer aussi de ceci. Avec professeur Gornostayeva, elle va en passer des heures sur une page. Vraiment, elle expliquait, elle essayait que je comprends la chose qu'elle voulait m'apporter. Et elle ne lâchait pas jusqu'au moment où vous aviez un peu compris, où vous aviez un peu... aussi sur le son, je pense que ça a donné encore une autre dimension parce que j'ai commencé à jouer des répertoires comme des concertos de Tchaïkovski. Tous ces répertoires qui demandent une certaine... ampleur de son. Et avec Madame Mounier, c'est vrai que j'avais pas de tension, je pense, quand je jouais. J'avais une position naturelle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'avait dit, Madame Gornostayeva, quand elle m'a vue la première fois. Elle m'a dit que vraiment, j'ai une bonne attitude avec le piano, je veux dire, physique. Mais c'est vrai qu'elle a encore amplifié beaucoup de choses. On est encore allé plus loin dans le texte, dans la compréhension, parce que, enfin, à chaque fois, je sortais de son cours et J'avais vraiment l'impression que je connaissais rien. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui prenait ça comme un art global. Mm-hmm. Pour essayer que je comprenne l'œuvre et commencer à me parler de plein d'aspects autres que la musique, de l'époque, des traditions qui se faisaient. Ça pouvait aller jusqu'aux philosophies chinoises. Enfin, ça pouvait aller vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses avec des images incroyables. Mais en même temps aussi une analyse harmonique de la partition, ce n'était pas juste imagination. Donc oui, je pense que ça m'a aussi donné beaucoup d'autres dimensions. Et elle disait que quand on joue le concerto de Tchaïkovski, par exemple, on n'a pas de... Enfin, moi, je ne suis pas très grande non plus. Je peux pas... Il faut que j'utilise tout pour que ça sonne. Je veux dire, je n'ai pas d'extra qui peuvent un peu rester inactifs. J'ai besoin de
mobiliser tout votre tout, corps.
Voilà, il faut que ça parte de mon... Je ne sais pas, de dos ou de mon ventre. Et qu'il y a tout le... poids sans qu'il y ait un blocage quelque part qui sort sur la petite surface de la doigt pour extraire le son du piano sans que ça devienne dur absolument, parce que vraiment elle voulait que ça ait un son ample et profond mais vraiment pas dur.
Ça c'est le relâchement, le secret de ça.
Ça c'est le relâchement, ça c'est une façon de... Les attaques, la rapidité de marteau qui touche la corde, enfin c'est... Oui, donc là c'est vrai que j'ai commencé aussi à m'intéresser comment sort le son du piano, parce que c'est des choses que je ne m'étais jamais posées, la vitesse de marteau avec les cordes, la façon dont ça... Il faut s'imaginer aussi, parce que... Le son de piano, il peut faire des diminuendo, oui, parce qu'après, quand on attaque un son, il y a le son, après ça diminue, et ça va dans le néant. Mais venir de rien, et que le son est tout un coup là, on ne peut pas avec le piano.
Il ne peut pas y avoir quelque chose de graduel, comme voilà. Avec un instrument à cordes, comme avec un instrument dans lequel on souffle, oui. Un instrument à vent. C'est vrai que c'est percussif.
Voilà, et le son, il ne fait jamais crescendo, parce que ce n'est pas possible. Mais après, il y a des compositeurs, bien sûr, Beethoven, tout le monde, qui ont écrit ce crescendo sur la note qu'il faut un peu imaginer, improviser, oui, faire cet effet. Et donc, ça m'a rendue curieuse de oui, savoir plus sur l'instrument. Et c'est vrai que ces années que j'ai passées avec Vera Grondastaeva, c'était peut-être 4 ans assez intensifs. Là aussi, pareil, je ne pouvais pas aller étudier à Moscou, mais elle nous a néanmoins invités à passer une semaine à Moscou en tant que touriste. C'était très impressionnant parce qu'on n'a jamais été dans un pays où il faisait moins 25. Et donc, on allait tous les matins chez elle. Et on avait les cours avec ma sœur, on y allait toutes les deux, le matin, l'après-midi, on mangeait avec elle. Après, son mari qui était peint nous emmenait dans les musées. Puis c'était l'hiver, donc on allait écouter les concerts du Festival de Richter. Puis tout d'un coup, vers 1h du matin, elle nous téléphone à l'hôtel, elle me dit « Ah, mais maintenant, il faut que vous sortez dans la rue, parce qu'il y a un tourbillon de petites flocons de neige. » Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est le passage dans le premier mouvement de Concerto Tchaïkovski. C'est exactement ce paysage. Alors, on a pris nos manteaux qu'elle nous avait prêtés parce qu'on n'avait pas de manteaux de fourrure et des choses épaisses comme ça. Et on se retournait dans la rue, on voyait cette atmosphère. Enfin, c'était encore la fin d'une Union soviétique. Oui, toute fin. (Musique)
dans cette notion du son au piano, il y a une grande part aussi qui est de l'illusion, je me disais, Momoko Dama.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le travaille ? Et est-ce que c'est le pouvoir de l'interprète que de pouvoir faire que l'auditeur a l'impression que cette note fait un crescendo ?
Oui, il faut par tous les moyens, si le compositeur est quel crescendo aussi, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il veut s'ouvrir son cœur ? Est-ce que ça veut dire qu'il veut dire quelque chose, insister sur quelque chose ? Enfin, ça dépend aussi qu'est-ce que ça veut dire, ce crescendo sur la note. Et c'est là que commencent toutes les... Parce que tout à l'heure, on disait que quand on est... J'avais, dans mes adolescences, âge adolescent, je ne me posais pas trop de questions. Donc, c'était les harmonies qui étaient très importantes. Bien sûr, les sentiments, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, c'était intéressant. Si c'était triste ou joyeux ou quel enchaînement. Mais quand on se pose plus de questions, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles émotions ? Et des choses aussi par rapport à la vie ou par rapport à une certaine esthétique. Et là, on commence à se poser... Il y a 1000 questions possibles, 1000 réponses possibles aussi. Bien sûr, on fait tout notre possible, toute notre sincérité pour essayer que ça sente convaincant, en phase avec ce que le compositeur voulait dire. Mais c'est là aussi que commencent beaucoup de doutes, de choses où on se dit... Oui, on se dit, peut-être on n'y arrive jamais et on est face à un mur. Et qu'après, il y a les concerts qui arrivent. Et c'est vrai qu'au moment du concert, je pense que vraiment, ou même avant, il faut être... On ne peut pas faire autrement, il faut être juste sûr de ce qu'on veut dire.
Oui, confiant.
Oui. Après le concert, on peut se reposer encore les questions, si, dans mon cas, si je veux. Mais... Donc pour en arriver là, je pense que c'est beaucoup de choses pas toujours faciles aussi, je pense. Oui, en tout cas pour moi.
Vous parliez du rapport à la scène. Je me demandais quel était le vôtre, Momoko Dama.
Je crois que pour moi, c'est quand même toute une préparation pour aller vers ce concert. Je ne peux pas le faire comme quelque chose de tous les jours, naturellement. Et donc, ça m'arrive que je suis angoissée, pas la veille, mais un mois avant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement cette angoisse. Je pense que ce n'est pas jouer mal ou quelque chose, mais je pense que c'est... Parce que c'est quand même une grande responsabilité de pas pouvoir exprimer tout ce qu'on peut exprimer, enfin ce que le compositeur voulait dire, et qu'on n'arrive pas à le faire parce qu'on est, je sais pas, avec le trac ou avec le, peut-être que le pouls va trop vite, plus vite que ce qu'on voudrait, ou enfin on s'imagine quand même beaucoup de choses avant. Résultat, c'est vrai que quand on est sur scène, c'est quelque chose qu'on ne sait pas avant, mais le public, vraiment, ça peut que apporter à l'interprétation.
Vous diriez que le public co-crée avec l'interprète ?
Ah, totalement, oui, totalement. C'est quelque chose qui se passe dans cet espace, que sur ce moment-là. Et d'ailleurs, on se rend compte que après, quand le public est parti et que ça m'arrive de retourner sur scène, comme ça, pour voir la salle, on se dit, mais... À la fois, la salle est encore pleine de vibrations de ce qui s'était passé, mais en même temps, c'est comme un autre espace quand il y a la musique, le public. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez très précieux et très sacré. C'est sacré, je ne sais pas si on peut dire ce mot, mais quand même, avec tout ce respect qu'on a, et qu'on a la chance de pouvoir être là... À ce moment-là, oui, on appréhende, enfin moi j'appréhende beaucoup ces moments, mais maintenant je commence à pouvoir me dire peut-être aussi, avec l'âge, merci que je peux faire cette chose, vraiment.
Thank you.
quel est votre rapport justement au sacré, à la spiritualité? Vous qui êtes donc d'origine japonaise, mais élevée en Europe, est-ce qu'il y a culturellement une tradition, une religion dans votre famille et maintenant aujourd'hui pour vous-même?
Oui, moi je suis, enfin de mon côté père, on est bouddhiste. Et de ma côté mère, chrétien, protestante. Et j'ai repris un peu cet héritage. Mais après, c'est aussi un choix parce que, voilà. Et quand j'étais petite en Allemagne, j'adorais aller à l'école dimanche. Personne ne m'y emmenait, j'y allais toute seule.
C'est l'école du dimanche, c'est le catéchisme protestant.
Le catéchisme protestant, oui, c'est ça. Puis, ça m'a accompagnée. Maintenant, oui, je suis... je ne sais pas si on dit baptisée en protestante.
Si, oui.
Oui, c'est une part pour moi importante, voilà. Mais mon père aussi, je veux dire, il est très ouvert. Il va, bien sûr, quand il y a des cérémonies religieuses, il fait on dit mantra peut-être bouddhiste comme ça, il sait le lire. Mais quand il y a pas, qu'il vient avec nous pour. Puis c'est lui toujours qui dit le premier, il faut remercier, voilà, le ciel. Donc je crois qu'on est très. La part de spiritualité est très importante, oui. Pour moi en tout cas très importante.
Est-ce qu'il y a des moments de découragement au cours de cet apprentissage, des moments de doute?
Non, quand j'étais en apprentissage, non, les doutes sont venus plus tard. Et ce que je crois que j'ai aussi fait beaucoup de détours dans ma vie, qui étaient peut-être pas forcément nécessaires ou que j'aurais peut-être pu éviter, mais je pense que c'est après que j'ai eu le prix de concours Munich. Je crois que c'est là aussi qu'ont commencé les doutes, les questionnements, que j'ai commencé à jouer les concerts. Et même au début, il n'y avait pas de doute. Je crois que je doutais plus après. Je crois que j'ai fait mes doutes, mes crises d'adolescence, tout ça, après, vers 25 ans, parce que avant, j'étais tellement dans cette énergie de vouloir découvrir, et je savais aussi très précisément ce que, peut-être même plus que maintenant, ce que je voulais faire. Et c'est ce que j'aimais, ce que j'aimais moins, et c'était assez clair. Ben voilà, beaucoup de choses qui font les choses d'une certaine façon, peut-être plus de notre profondeur, peut-être. Mmh.
C'est avec cet extrait de la suite en ré de Jean-Philippe Rameau par Momo Kodama à la Philharmonie de Paris en novembre 2019 que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec la pianiste d'origine japonaise. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Frédéric Kérou, mixage Emmanuel Morse d'Incan, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.